Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h au studio Kalangou. Les informations en français continuent avec Raylette Soumana. Au sommet de cette édition, crise universitaire, ce matin, le nouveau ministre en charge de l'enseignement supérieur, Yahuza Sadissou, a rencontré le comité directeur des scolaires pour la suite des négociations entamées avec le Premier ministre. Vous entendrez les deux parties sur le sujet dans un instant. La commission parlementaire d'enquête sur l'affaire dite d'Uranium Gate, mise en place il y a environ un mois, a déposé son rapport auprès du président de l'institution. Les députés de l'opposition affirment ne pas avoir été associés de cette décision. La mode africaine comme alternative salutaire à l'immigration, c'est le thème de la troisième édition du festival Africa Mode. Nous en parlerons dans cette édition. Le problème d'eau persiste dans la ville d'Arlit. Malgré l'inauguration du château d'eau le 8 mars dernier, la société civile et le maire de la commune réagissent en partie magazine. Première rencontre ce matin entre le nouveau ministre des Enseignements supérieurs, Yahuza Sadissou, et les responsables de l'Union des scolaires nigériens. D'entrée de jeu, la question de la reprise des cours a été mise sur la table par le gouvernement. Le ministre Yahuza Sadissou a souhaité la reprise le plus rapidement possible des activités académiques. Je vous propose de l'écouter au micro de Soumana Amadou.
J'ai convoqué aujourd'hui l'USN pour poser les jalons de nos futures discussions. C'est donc juste une réunion de prise de contact. À l'issue de cette réunion, je sors heureux en ce sens que nous avons d'abord repris le dialogue, ce qui est significatif. Maintenant, les autres points en suspens dans le cadre de leur préalable vont être examinés. J'avais souhaité qu'ils examinent rapidement la possibilité de lever le mot d'ordre de boycott qu'ils ont placé. Ils ont évoqué un de leurs préalables qui n'est pas encore satisfait. Nous allons poursuivre les discussions, mais j'ai bel espoir que, inshallah, rapidement, nous allons nous retrouver pour que ce mot d'ordre soit levé, pour que les étudiants et les élèves reprennent le chemin de l'école.
Il n'y aura pas de reprise des cours avant la satisfaction totale des revendications. Voilà ce qu'ont répondu les représentants des scolaires. Revendications au premier rang desquelles la constitution d'une commission d'enquête indépendante sur les événements du 10 avril dernier. Soumana Hussein Sambou, secrétaire général de l'USN, toujours au micro de Soumana Amadou.
Et l'heure n'est pas au lever des mots d'ordre, mais l'heure est aux négociations. Notre organisation a accepté de négocier avec le gouvernement par rapport à l'évolution de la situation, par rapport aux satisfactions de tous les problèmes qui ont amené les étudiants et scolaires à partir en mouvement, par rapport à la mise en place de cette commission indépendante pour faire la lumière pour les événements du 10 avril, car l'ISN a décidé que plus jamais ça, elle ne veut pas tolérer que ce genre d'actes puissent se poser et que les auteurs, les complices restent dans l'impunité. Il faudrait qu'on nous fasse ressortir qui a tué Bagalé, qui a donné des instructions pour lever les franchises universitaires, qui a donné l'instruction pour humilier les étudiants à l'université de Niamey et de Maradi, chose que nous avons déplorée et que nous allons veiller pour que tous ces mots qui assaillent le système éducatif nigérien puissent trouver des solutions pour que nous reprenions le chemin de l'école.
Il y a exactement un mois, la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate était mise en place. La commission a déposé ce matin son rapport sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Cependant, les députés de l'opposition, membres de cette commission, disent ne pas être associés de cette décision. Écoutons la réaction de Soumana Sanda, vice-président de la commission, au micro de Habibou Garba.
Il était question pour nous de donner du temps aux deux rapporteurs pour agencer, disons, les différentes réponses que nous avons recueillies lors des auditions, pour nous faire une présentation afin que nous puissions décider de la suite à donner. C'était ça la conclusion de notre dernière réunion. Mais nous avons compris qu'il y a une forte pression politique sur les députés de la majorité membres de cette commission d'enquête. Et ce n'est pas par ces petites combines au niveau de l'Assemblée nationale qu'on peut nous détourner de cette mission républicaine. Nous allons, Inch'Allah, rentrer en possession de ce rapport et vous appeler pour que vous ayez les détails en ce qui concerne les différentes auditions que nous avons eues au niveau de cette commission d'enquête parlementaire. Vous verrez de vous-même qu'il y a nécessité, effectivement, qu'une information judiciaire soit ouverte pour déterminer les responsabilités des uns et des autres.
Les députés de la majorité que notre reporter a sollicité n'ont pas voulu réagir sur ce sujet. Une page santé dans ce journal, elle sera d'abord consacrée à l'épidémie d'hépatite E virale constatée dans la région de Diffa, où 25 décès ont été enregistrés à la date du 19 avril 2017. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Maynassara, lors d'un point de presse. Toutefois, la situation est sous contrôle, affirme le ministre en charge de la Santé. Faisons d'abord le bilan de l'épidémie et l'inventaire des moyens de prévention avec Dr Daouda Souley, directeur régional de la Santé de Diffa, au micro d'Adam Baboukarna.
Nous avons notifié à la date du 19 avril 2017 86 cas, dont 25 décès. Les femmes représentent 80% des cas. Le district le plus touché, c'est le district de Diffa. Donc, il faut dire que les réfugiés et les déplacés représentent plus de 90% des cas, mais il y a aussi des cas autochtones. La prévention, il faut respecter les normes de qualité pour les approvisionnements publics en eau. Il faut mettre en place les systèmes d'élimination adéquats pour les sels. Il faut respecter les pratiques d'hygiène telles que le lavage des mains avec de l'eau et du savon.
Voilà pour les moyens de prévenir l'épidémie. Voyons maintenant les signes cliniques qui permettent de déceler chez un patient la présence de la maladie. Notre reporter Nafisa Adamou a posé la question au docteur Haruna Haidara, médecin responsable au centre de santé intégré Magama de Niamey. Nous l'écoutons.
C'est une maladie qui se transmet en cas de manque d'hygiène, que ce soit hydrique ou environnemental. Chez les personnes atteintes, il y a deux types. Il y a les personnes qui sont atteintes mais qui ne se manifestent pas. Donc, c'est asymptomatique jusqu'à 2 à 3 semaines. Maintenant, quand les signes apparaissent, généralement des signes de fatigue, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements et des douleurs abdominales. Et chez la femme aussi, des douleurs du bas ventre les plus caractéristiques. Les yeux sont jaunes et les tegumas, c'est-à-dire les ongles et autres, sont jaunes. Les urines sont foncées et les selles sont décolorées. L'hépatite E, généralement, c'est une hépatite qui est vraiment banale, mais quand elle entraîne une épidémie, elle est vraiment très sévère. Dès que les signes apparaissent, on conseille aux patients de se rendre à un centre de santé le plus proche pour faire des examens. Donc, le traitement préventif, c'est l'hygiène et l'assainissement. Le traitement curatif, généralement, en cas d'hospitalisation, c'est d'isoler le malade et de faire le traitement symptomatique.
Docteur Haidara Haruna, propos recueillis par Nafisa Adamou. Suite de la page santé de ce journal, nous continuons à faire le point de la méningite. Aujourd'hui, la région de Tawa a ce jour 177 cas de méningite, dont 6 décès ont été enregistrés dans les départements de Madawa et Kwani, selon Amadou Adamou, directeur régional de la santé publique de Tawa. Toutes les populations de ces localités ont été vaccinées pour éviter la propagation de la maladie.
La situation, elle est beaucoup plus importante au niveau des districts du sud, les districts sanitaires de Konni et de Madawa. C'est surtout au niveau du district sanitaire de Konni où nous avons une localité où le seuil épidémique a été franchi. Il s'agit du centre de santé intégré de Alela. Au total, du début de l'année, à la date du 18, nous avons enregistré au niveau de ces localités 177 cas, dont malheureusement 6 décès, qui ont été enregistrés donc liés à la méningite. Une campagne de vaccination de riposte a été organisée au niveau de ce centre. Toute la population de 2 à 20 ans de tous les villages de l'aire de santé du CSI de Alela dans le district sanitaire de Konni, ils ont été vaccinés. Nous avons au total vacciné 19 810 personnes âgées de 2 à 20 ans.
Propos recueillis par Abdoulaye Aoussouk depuis Tawa. La campagne de vaccination contre la méningite à Dosso, elle a commencé ce lundi et concerne le département de Djundjou, les villages rattachés à la commune de Karakara, le département de Douchi et les villages rattachés à la commune de Guéchémé, considérés comme zones susceptibles d'épidémie car des cas ont été enregistrés. Depuis mardi, dans le département de Djundjou, avec le soutien de l'équipe de l'organisation Médecins sans frontières, trois sites ont été mis en place. Plus de 200 personnes par jour sont vaccinées, notamment les personnes de 1 à 29 ans qui n'ont pas été vaccinées en 2015. Lancement officiel de l'opération vente à prix modéré de céréales sèches à Filengué. Elle concerne 4 communes du département qui sont révélées déficitaires à l'issue de la campagne agricole 2016. L'objectif de cette opération est d'aider les Nigériens en situation de vulnérabilité alimentaire en leur garantissant l'accessibilité aux céréales sèches. C'est ainsi que 200 tonnes composées de mil, de maïs et de sorgho seront vendues au prix unitaire de 365 francs CFA, la mesure pour l'ensemble des 4 communes. Jubo Hamidou, responsable du bureau de l'Office des produits vivriers du Niger à Filengué, explique les modalités de vente. Il est au micro d'Abdoulaye Bagassa, notre correspondant.
La commune urbaine de Filengué a reçu 60 tonnes. 20 tonnes mil, 20 tonnes maïs, 20 tonnes sorgho. La répartition, ça se fait comme suit. Les 75% des tonnages doivent partir dans les centres secondaires Louma, Talcho, Pelundamissa. Et les 25% restent au centre principal. Les modalités de vente, c'est par mesure. 5 mesures par personne. Et la personne doit présenter le livret de famille. La TIA, c'est à 365. Le mil, le sorgho et le maïs. Avec le président du comité, ils ont arrêté 1 tonne à 1,5 tonne par jour.
Mode dans ce journal, ouverture ce soir au Sky Lounge de la 3e édition du Festival Africa Mode sous le thème mode africaine comme alternative salutaire à l'immigration. L'initiateur Gay Ibrahim, connu sous le nom d'Ibu Africa, est un Nigérien d'origine sénégalaise. Il entend contribuer à la diffusion des modes nigériennes et africaines à tous les publics. Pour cette édition, le Niger sera représenté par 4 stylistes dont Ahmata Biano et Rabé Oumalé. 10 autres pays africains prendront part à cet événement culturel et économique. La partie magazine de ce journal, le 8 mars dernier, était inauguré en grande pompe le château d'eau de la ville d'Arlit, une infrastructure accueillie avec joie par la population. Depuis sa création en 1969, la ville ne disposait pas de système autonome d'alimentation en eau. Un mois et demi plus tard, hélas, la population est toujours confrontée au manque d'eau. Qu'est-ce qui explique cette situation? Gungu Mahamman Dantani s'est entretenu ce matin par téléphone avec l'acteur de la société civile, Ramar Elatoufet.
Depuis plus de 10 jours maintenant, il n'y a pas de l'eau. Rarement les gens ont de l'eau à boire. Les robinets sont secs. On a demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Ils ont dit que la Seine n'a pas amené de travailleurs pour surveiller la station de pompage d'eau. Un seul travailleur qu'ils ont pris d'Agadez pour faire la surveillance de la station. Ce travailleur-là, quand il est là-bas dans la journée, la nuit, il a peur parce que c'est à 30 km d'Arlit. Donc, il n'y a pas de sécurité. Il ne peut pas rester là-bas. Voilà les problèmes qui se posent. Oui, tout est terminé. Le problème du château, c'est qu'il n'est pas alimenté. Voilà le problème. Les gens sont dans de très grandes difficultés parce qu'il n'y a pas de l'eau. Le château est complètement vide. Maintenant, la Seine devait s'engager pour donner les moyens pour aller surveiller la station. Il n'appartient pas au maire, à mon avis, de surveiller une station de pompage qui appartient à la Seine. Il appartient à la Seine de prendre ses responsabilités.
Le maire de la commune, El Hadj Abdrahmane, affirme avoir pris toutes les dispositions pour régler très rapidement ce problème.
Effectivement, la semaine passée, on s'était confronté à un problème de personnel qui est chargé de faire le pompage au niveau donc des champs de captage. Agadez a mis à notre disposition un seul agent au lieu de mettre 3 ou 4 qui doivent se relayer au niveau des champs de captage. Une seule personne, de 6h du matin jusqu'à 18h, elle finit le pompage. Pour des raisons de sécurité, il rentre dans la ville parce que c'est à 25 km. Donc, ce qui fait que la nuit, l'eau n'est pas pompée et l'eau qui est dans les châteaux ne peut pas suffire à alimenter la population. Donc, cette question, je l'ai déjà prise en main et depuis hier, la garde, elle assure la sécurité. sécurité et déjà des agents ont été mis à notre disposition. Je pense que le problème est réglé une fois pour toutes.
Pour l'instant, il n'est pas possible de dire à quelle date l'eau va à nouveau couler dans les robinets d'Arlit. C'était une enquête de Gungu Mahaman Dantani. Ainsi prend fin cette édition. À suivre tout de suite le forum du studio Kalangu qui traitera de l'état des lieux de la sécurité et de la paix dans la région d'Agadez. Au revoir.